40, la philosophie en islam. Il y a peu de temps a été édité un recueil, on peut appeler ça un recueil, par Mathieu Terrier et Farès Gillon, édition Diacritique édition. Anthologie bilingue de la philosophie en islam. J'ai acheté, forcément. Moi, j'aime beaucoup m'intéresser aux croyances. Et ça m'intéresse beaucoup. Et donc, je l'ai beaucoup feuilleté, beaucoup lu. Donc, je vais vous donner des parties, parce que tout, c'est pas possible, même. Tu comprends ce que tu peux comprendre, quoi, dans les croyances. Ce que tu as envie. Je vais vous dire ce que moi j'ai compris. Et même ça, c'est trop dire, quoi. C'est peu dire. Le livre de la démonstration des prophéties. Le titre. Dans le chapitre Le monde et le temps. Les préceptes et les jugements appartiennent à la prophétie présente, tout comme le fait de faire passer de la puissance à l'acte, les formes spirituelles. À titre d'exemple, la prophétie durant le cycle de Jésus instaura sa loi révélée et son gouvernement, et les formes créées alors étaient déterminées par les vérités ésotériques. Les connaissances et les décrets révélés par Jésus, pour cette prophétie, le cycle de Moïse était passé par celui de Mohammed, était à venir. Durant le cycle de Jésus, il appartenait à instaurer sa loi révélée, de manifester les formes spirituelles de la loi révélée de Moïse ou de celle de Mohammed. Ensuite, nous trouvons que le temps est comme généré par la prophétie et attribué à elle. Donc ça, les croyances, ça va jusque là. Donc plus loin, alors j'ai noté transformation. Alors, il vit de même que s'il adoptait la thèse de l'éternité du monde, posant que le monde n'avait pas été précédé par le non-être. Le non-être, on y revient. N'avait pas été précédé par le non-être, mais avait toujours été tel qu'il était. Il s'ensuivait que son mouvement était éternel, sans commencement absolu, puisqu'il n'avait été précédé d'aucun état de repos à partir duquel il aurait commencé d'être. Or, tout mouvement devait nécessairement avoir un motif. Et donc ça continue par la force transcendantale, mais j'ai noté force transcendantale, mais il avait démontré que tout corps était nécessairement fini. Toute puissance dans un corps était donc elle aussi nécessairement finie. Donc s'il se trouvait une puissance effectuant une action sans fin, cette puissance n'était pas dans un corps. Or, ayant supposé le ciel éternel et sans commencement, il fallait qu'il se mue éternellement d'un mouvement sans fin et sans interruption. Je trouve ça, et en plus, les lectures encore, je vous dis, que je fais là sur les philosophes de l'islam, ça touche le non-être. Cette fois, pas de Augustin, mais Augustin, c'était un des. Enfin, il a beaucoup écrit sur la philosophie chrétienne, catholique. Non, c'était sur... Comment il s'appelait déjà? C'était sur... Non, lui, c'était un pré-socratique. À qui on a fauché des trucs... Gorgias. Gorgias. Très fort, traité du non-être. Je l'ai lu là, la semaine dernière. Non, mais cette semaine. Ouais, dans les barges russes. Alors, un peu plus loin. Dans le chapitre « La hiérarchie des mondes et le monde imaginal ». Je vais remettre la musique. Hein, avant de continuer. Alors... Hop, voilà. Parce que bon, on a sonné chez moi, alors il a fallu que j'aille voir qui c'était. Donc là, c'est on écoute le disque Chant pour les oliviers de Mohamed Bar. Voix des villes lointaines, Jérusalem, la colère des rebelles. À propos d'un homme, un chant quelconque, à propos de la résistance. Voici les morceaux qui sont inscrits sur ce disque. Le concept de monde imaginal répond à plusieurs besoins de la pensée philosophique et théologique en islam. Il s'agit d'abord, dans le processus d'appropriation du système platonicien, d'expliquer la relation possible de l'intelligible au sensible. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est l'abord des deux côtés. De l'intelligible au sensible, comme de l'esprit au corps. C'est exactement ce dont les objets qui sont abordés dans mes barges russes. Difficilement compréhensible dans une perspective purement dualiste. À cet égard, le monde imaginal est fréquemment identifié au monde de l'âme. Le monde imaginal est fréquemment identifié au monde de l'âme, intermédiaire entre l'intellect et la nature dans la métaphysique du néoplatonisme. L'idée d'une réalité imaginative intermédiaire entre la pure spiritualité et la matérialité permet de repenser la question de la résurrection. Ça, c'est très important. Sans nier littéralement le dogme de la résurrection corporelle, négation constituant l'un des principaux motifs d'anathémisation des philosophes, ça je ne sais pas ce que ça veut dire, le concept de monde imaginal joue ainsi un rôle stratégique dans l'entreprise sans cesse renouvelée de concilier la pensée philosophique avec les données de la révélation. Il permet à des religieux traditionnalistes d'être aussi des philosophes. Il s'agit, avec ce concept, de fournir une théorie générale du rêve et des expériences visionnaires autant qu'une définition de la réalité de l'image ou de l'image comme réalité. En somme, la création du monde imaginal par des métaphysiciens de l'islam, héritiers de la philosophie grecque, n'est pas seulement un événement majeur de l'histoire des idées, elle a aussi une portée philosophique éminemment moderne. J'adore. Donc je vais continuer toujours avec ce livre sur l'ontologie de la philosophie en islam. Cette fois, toujours dans le chapitre « L'homme et le monde ». Donc là, j'avais noté « L'homme, origine et manifestation des réalités essentielles selon ceux qui étudient les signes ». Ensuite, il pense que la création humaine est le lieu de manifestation de tous les noms et attributs de Dieu, du fait qu'elle rassemble en elle toutes les réalités essentielles, qu'elles soient immatérielles ou matérielles, subtiles ou grossières, et ainsi de suite, selon les distinctions de ceux qui étudient les signes de l'univers et des âmes. L'homme est donc un modèle de tous les mondes et pour cela a été appelé microcosme. Alors là je crois que c'est vraiment, je ne l'ai pas lu, mais... J'avais noté là, schizo, plus les signes diverses. Divins, je veux dire. Alors là, on est toujours l'homme et le monde, le chapitre l'homme et le monde. Les secrets des signes divins. C'est que la réalité essentielle de l'homme est un lieu de manifestation. C'est que la réalité essentielle de l'homme est un lieu de manifestation rassemblant les lieux de manifestation de tous les noms de Dieu, à la différence des autres êtres. En effet, chacun de ceux-ci est le lieu de manifestation de certains noms de Dieu, comme les anges le sont, les noms, le glorifiant, le saint, le sauf et d'autres semblables. Quand les démons, les noms, l'égarant, l'orgueilleux, l'irrésistible, le contraignant et d'autres du même genre, comme les animaux, les noms, l'entendant, le voyant, le vivant, le puissant et d'autres similaires, comme le feu. Par rapport à la schizophrénie, ouais. Par rapport aux différents noms de Dieu. C'est que la réalité essentielle de l'homme est un lieu de manifestation, rassemblant les lieux de manifestation de tous les noms. Ça, c'est... Waouh, c'est carrément de la schizophrénie non clinique, quoi. À mes yeux. C'est comme ça que je l'interprète, encore une fois. Les croyances doivent être lieu à des interprétations. D'ailleurs, dans l'islam, il y a même un courant de la religion qui est... Je ne veux pas dire parce que je ne sais plus. Et ensuite, alors là, j'avais mis âme du côté invisible. Tant que l'âme est revêtue de matière, elle ne se connaît pas elle-même dans son plus simple appareil. Ni aucun des attributs, ni aucun des états qui lui appartiennent quand elle en est dépouillée. Mais quand elle s'est séparée et que cet obstacle est levé, alors elle se connaît elle-même, ses états et ses attributs propres. Elle sait qu'elle perçoit les choses sans organes corporels. Le feeling. Et alors là, la philosophie du mal, il est question par Fares Gillon, cet article. Le problème du mal, c'est le chapitre, le nom du chapitre. Il apparaît donc que le concept clé dans l'appréhension philosophique du mal en islam est celui de la relativité. Celle-ci entendant s'entendant de multiples façons. La relativité vaut également pour l'approche ontologique du mal, dont le cantonnement au monde de la génération et de la corruption permet d'insister sur la pureté des mondes spirituels et donc sur la perfection de l'ensemble ontologique, puisque la part de l'être qui contient le mal n'est que minoritaire, qu'il n'existe pas de choses où le mal tienne une plus grande part que le bien, et que le mal lui-même contribue par contraste à la présence du bien dans le monde matériel. Le mal lui-même contribue par contraste à la présence du bien dans le monde matériel. Bah oui. S'il y a eu du bien, on n'appellerait pas ça le bien. S'il y a eu du mal, on n'appellerait pas ça le mal. Donc il faut les deux. Ontologie, c'est qui traite de l'être indépendant de ses déterminations particulières. Comme je disais, la relativité vaut également pour l'approche ontologique du mal. Ontologique, là, ça veut dire qui traite de l'être indépendamment de ses déterminations particulières. Là, j'avais noté accident, maladie, indication et avertissement. Le mal accidentel. Des mobiles. D'autres ne peuvent exercer leur vertu qu'elles ne produisent un certain mal accidentel quand le mouvement confluent que les mobiles se choquent. Enfin, il y a des choses mauvaises, complètement ou majoritairement. Les corps vivants ne peuvent avoir leur vertu sans que leurs propres états, au cours de leur mouvement et de leur repos, ne puissent en venir à entrer dans les combinaisons et des chocs douloureux avec d'autres du même ordre. Comme le feu, par exemple. Mais vraiment, moi, la lecture de cette anthologie, ça m'a vraiment rappelé tout ce que j'ai pu lire sur la religion chrétienne. Mais ça, c'est... Ouais, c'est hyper proche, mais c'est des... jusqu'au 13e, 12e siècle, les philosophies se ressemblent... Enfin, ouais... étaient vraiment très, très... proches les unes des autres. Donc je vous propose un autre disque. Voilà. Cette fois, c'est A Musical Anthology of the Orient. Je l'ai passé plusieurs fois, celui-là. Bon, c'est la deuxième partie, c'est le disque 2. Ouais. On va écouter la face numéro 2. Comme on a écouté la face numéro 1. Ensuite, existence. Et alors là, j'ai annoté, c'est dans le chapitre, la connaissance de soi. J'ai annoté d'où se poser des questions. Tu n'es pas absent de ton soi ni de la connaissance que tu en as. Si la connaissance de soi n'est pas possible au moyen d'une image ou d'une chose ajoutée, c'est que tu n'as pas besoin. Dans la connaissance que tu as de ton soi, d'autre chose que ton soi qui est évident pour lui-même et n'est pas absent de lui-même, il est donc nécessaire que la connaissance que ce soi a de lui-même soit une connaissance de lui-même en tant que tel. Là, en fait, il dit que quand tu veux quelque chose et que tu n'arrives pas à le trouver, c'est qu'il ne faut pas que tu aies à le trouver. Moi, ça m'arrive souvent, je vais vous donner l'exemple des livres. Ah ouais, il faut que je trouve ce livre, où est-ce qu'il est, je cherche. Je le trouve pas, je me prends pas la tête, c'est que j'ai pas à le trouver. C'est que ce livre est pas, en fait, c'est pas celui-là qu'il me faut. Mais par contre, je vais en trouver un à côté, que je vais prendre en dépit, et en fait, il va s'avérer être mieux. Même chose pour... récemment, le traité du non-être de Gorgias. Le truc, je regarde sur internet, introuvable, on sait pas où il est, c'est plus édité, c'est pas édité, peut-être même jamais édité. Et moi, je le retrouve plusieurs textes, justement présocratiques. Les philosophes avant Socrate, chez Flammarion, je retrouve le texte dedans. Parce que celui-là, par contre, je devais le trouver. Et je me demandais comment le trouver d'ailleurs. Et je l'ai trouvé en feuilletant le livre. Les choses sont comme ça. L'existence. Résurrection. Alors avant, je vais vous lire. Les voies de la connaissance. L'interrogation sur les voies de la connaissance est l'occasion d'une réflexion critique de la philosophie sur elle-même, une médiation sur les limites du pouvoir et de la raison de son possible dépassement par une autre faculté. Le problème porte essentiellement sur les valeurs respectives de la méthode rationnelle et d'une voie non rationnelle, ce qui ne signifie pas irrationnel, si l'on peut qualifier le mystique. Selon les auteurs, elle est désignée comme dévoilement spirituel. Faites se poser des questions. Et alors, la résurrection, en songe ou à l'état de veille, anticipe le destin de l'âme après la mort. Ainsi, le problème posé par la résurrection, affirmé par la révélation en termes corporels, alors que la raison la conçoit comme spirituelle, est en quelque sorte résolu par l'imagination, terme intermédiaire qui a part au spirituel et au corporel. Phares, Gilon. Et là, je finis là-dessus, sur la création. Ça va être la prochaine émission. La création est très importante pour cette croyance, et j'ai trouvé Henri Corbin, vraiment spécialiste de l'islam, l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi. J'ai commencé à le lire, on en reparle à la prochaine.
La barge russe, tous les jours, maintenant. Hey, hey, well, jolly to your bag, and a bag of love and all that, yes, and I thank you very, 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 very much. Sur Jet FM.